Vous écoutez RTL.
11h04 sur RTL, c'est à la bonne heure tout de suite avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bénédicte, et on retrouve Bénédicte Tassard à midi.
À tout à l'heure.
Pour faire un point sur l'actualité, mais nous plongeons dans la bonne heure. Et c'est vraiment le bonheur aujourd'hui de recevoir Ève Ruggieri pour son dictionnaire amoureux de Mozart chez Plomb. Bonjour Ève, je vais vous présenter dans un instant. Mais j'aimerais dire d'abord que l'Institut National des Jeunes Aveugles, placé sous la tutelle du ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, est un établissement public national d'enseignement et d'éducation spécialisé pour aveugles. C'est un institut public parisien, Louis Braille, inventeur de l'écriture, qui porte son nom. Il fut élève, puis professeur. Et donc cet institut, à ce titre, est habilité à recevoir des legs et donations. Ces fonds permettent notamment le développement de l'équipement des élèves en matériel informatique spécialisé pour faciliter leur inclusion scolaire et sociale. Nous avons d'ailleurs quelques-uns des élèves aujourd'hui dans le public. Je les remercie de leur présence, parce que c'est vrai que sur RTL, ils peuvent aller voir, enfin, ils peuvent aller écouter un certain nombre d'émissions. Et bien, ils ont préféré venir rigoler avec nous. Et ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, je vous présente mes petits camarades. Je suis entouré de celui qui ne connaît en musique que la Symphonie des animaux. C'est Marc Giraud.
Bonjour, oui. Marc. Ben, je vais vous parler de Mozart, parce que vous saviez qu'il avait un petit oiseau. Donc, je vais vous parler du petit oiseau de Mozart.
Le petit oiseau de Mozart, ben, c'est la flûte enchantée. Ouais. De celui qu'on appelait naguère le Wolfgang de Clermont-Ferrand, parce qu'il était déjà le vôtre, langue de vipère. Oui, comme Mozart, langue de vipère.
Mais vipère lubrique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est...
Ah, vous connaissez.
Régis Maillot.
Bonjour à tous. Oui.
Éric Dussard, quand on lui parle d'un ange, il pense pas à ceux du plafond d'opéra, mais aux anges de la télé-réalité.
Non, pour le coup, j'ai regardé Arte aujourd'hui. Ça a été très instructif, justement, sur Mozart et cette lubricité que vous évoquiez à l'instant.
Thermique, mon pauvre.
Oui, oui, oui. Non, mais ça va. J'ai quand même tout compris et j'ai perdu que 3 neurones.
Très bien. Et Patrice Carmouz, qui nous présentera dans son test musical quelques chanteurs qui ont mis leurs paroles sur une musique de Mozart. Et je vous présente notre invité. Et pour gagner, vous pourrez gagner justement un multicuiseur. Multicuiseur Russell Hobbs. C'est très bien, c'est Cook at Home de Russell Hobbs. Allez voir sur russellhobbs.com et puis vous pouvez vous inscrire pour le quiz musical de Patrice au 3210 ou en envoyant bonheur en majuscule par SMS au 74 900. Elle est en quelque sorte tombée dans la fosse d'orchestre toute petite avec un père contrebassiste et une mère violoniste qui l'ont obligée à jouer du piano et à poursuivre ses études musicales au conservatoire. De sa voix inimitable et de son physique de télévision, elle a fait un atout pour populariser la musique classique sur le petit écran et à la radio. Elle qui n'a cessé d'avoir la musique au cœur, révélant tous les artistes lyriques de notre temps et les faisant ensuite venir par sa seule force de conviction, plutôt que le carnet de chèques, dans les festivals qu'elle organise, notamment à Antibes, à Lacoste, en Eure-et-Loire aussi. Tous les matins, elle raconte à la radio les destins des grands compositeurs qui sont un peu ses anges gardiens, car elle a l'art de nous intéresser à l'œuvre des maîtres en nous faisant pénétrer dans la coulisse de leur vie. Ainsi a-t-elle procédé pour son dictionnaire amoureux de Mozart, consacré au héros absolu de sa jeunesse, celui qu'elle aime par-dessus tout et qu'elle connaît comme un ami, nous faisant entrer dans l'intimité de Léopold, un père pas si fouettard que ça, Constance, l'épouse pas si sotte que ça, et Salieri qui reste le rival mais qui l'a pas empoisonné visiblement. En quelques 800 pages érudites mais toujours divertissantes, car derrière la statue du commandeur Mozart, elle est partie à la rencontre de Wolfgang Amadeus, avec nous ce matin, Ève Ruggieri. Alors, chère Ève, vous publiez le dictionnaire amoureux de Mozart. Vous dites que c'est d'ailleurs le mot amoureux qui vous a convaincu d'accepter la proposition de l'éditeur. Alors, la question est simple, est-ce que vous êtes amoureuse de Mozart? Est-ce que si vous aviez vécu à son époque, vous auriez pu tomber sous son charme?
Tomber sur son charme, certainement. Oui. Mais je pense sincèrement que j'aurais adoré qu'il fût mon meilleur copain. C'est le copain dont tout le monde, tous les adolescents auraient rêvé, parce qu'il est incroyablement joyeux, incroyablement, comment dirais-je, aventureux. Il se prête à toutes choses de choses. Il adore les femmes et elles le lui rendent bien.
Oui. Enfin, il n'a pas le temps pour faire tout
et,
ça. Parce qu'il
c'est un génie. Si, il arrive à faire tout ça en même temps.
En même temps, oui.
Il tombe amoureux.
Rapidement.
Oui. Et puis surtout, il a cette faculté incroyable. Son père lui écrit un jour tu es en retard pour telle ou telle partition. Il dit non, mais pas du tout. Je l'ai déjà écrite, elle est dans ma tête. Je termine ce passage de l'opéra et je la mets tout de suite sur partition. Ce qui fait que quand on regarde ces partitions, ce que j'ai fait moult fois, entre autres au Mozart et à Salzbourg, il n'y a pas une reprise.
C'est fou. Il avait dans la tête et il l'écrivait.
Oui, il faisait en même temps. Ouais. Et quand il
paraît qu'il faut plus de temps pour copier du Mozart qu'il n'en a mis de temps pour écrire.
Pour certaines partitions. Mais c'est sûr, si les copistes de l'époque s'arrachaient les yeux à recopier les partitions.
Alors,
je vous vois finir.
On va retrouver Eve Ruggieri pour une interview classique et opéra. Pleine de fantaisie, vous allez voir.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Eve Ruggieri pour son dictionnaire amoureux de Mozart chez Plomb. Alors, mon interview classique et opéra. Est-ce que vous avez longtemps rêvé d'un chevalier à la rose?
Alors, oui.
Vous l'avez trouvé?
Je l'ai trouvé. Quand on le voit, on imagine pas tout de suite ce titre, je ne sais pas pourquoi, mais
il vous offre jamais de rose.
C'est probablement de tous les compositeurs presque de notre temps, le chevalier à la rose, Richard Strauss, c'est sa période où il retourne vers le classicisme et vers Mozart. Et c'est un opéra absolument sublime.
Ah mais j'étais pas sérieux, moi je parlais pas de Strauss, hein. je parlais de votre vie. Hein.
Ah non. Il veut que vous racontiez n'importe quoi. Non, vous stressez
vous
pas.
Vous avez trouvé un chevalier à la rose.
Pas du tout, non, je me suis dit c'est l'occasion de faire étalage de ma
culture. Oui, c'était bien, c'était bien.
Non, c'était bien, ne le laissons pas passer. Oui.
Vous avez vu qu'on vous a interrompu vite.
Ça n'a pas traîné.
Qu'est-ce qui peut, comme la flûte, vous enchanter?
Ah, beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Pour rester dans le domaine de la musique, je dirais les voix de mes oiseaux chanteurs.
Oui.
Toutes ces jeunes femmes qui ont des voix absolument magnifiques, et ces jeunes gens aussi d'ailleurs. Et puis dans le courant, quand j'écoute la radio, que je regarde la télévision, la vôtre.
Oh, c'est trop gentil. Merci. Don Juan vous attire ou vous repousse?
Oh ben, il m'attire comme toutes les femmes. On sait qu'il ne faut pas y aller, mais on y va quand même. Alors ça, il y a un passage que j'adore, parce que Mozart connaissait les femmes pour ce qu'elles sont intimement, qui est le passage où Don Giovanni va voir la petite soubrette qui est en train de se marier avant sa nuit de noces, et il lui dit « Suis-moi, suis-moi, je t'épouserai ». Elle sait très bien qu'il n'y a aucune chance pour qu'il l'épouse.
Mais il y va quand même.
Et l'air, c'est voreille et nos voreilles. Je veux pas aller là, elle fait des manières, puis elle le suit. Oui, et c'est quand vraiment il va la violer qu'elle appelle au secours son mari.
Oui.
Mais voilà, elle l'a quand même suivi. Et c'est tout à fait ça.
Balance ton Don Juan. Vous êtes plutôt la bohème ou la bourgeoise?
Probablement un mélange des deux.
Ça s'appelle Bobo.
Oui, malheureusement.
Non. Pour qui ou pourquoi, comme fausse, vous pourriez vous damner?
Bonne question.
Stéphane Bern, il faut répondre Stéphane Bern.
Un gâteau au chocolat.
Je crois qu'il y a peu de choses. Finalement, contrairement aux apparences, je suis quelqu'un d'assez austère.
Vous êtes quelqu'un de désordonné ou discipliné comme la fille du régiment?
Très disciplinée.
C'est la fille du régiment.
Pas tout à fait comme la fille du régiment, mais pas loin.
Est-ce que vous êtes comme Carmen? Vous dites si tu m'aimes, prends garde à toi?
Oui. Volontiers.
Est-ce que comme dans La Belle Hélène, vous êtes déjà posé cette question, dis-moi Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi chavirer la vertu?
On dit ça chaque fois qu'on cède, non? Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Je sais que ça va mal tourner, mais bon.
On le fait quand même.
Et là, on dit, mais c'est pas de ma faute, c'est Vénus.
Exactement, voilà. Mais en même temps, c'est bon. De céder à la tentation. Allez, on va parler de ce dictionnaire amoureux de Mozart dans un instant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Eve Ruggieri qui publie dans cette fameuse collection du dictionnaire amoureux, eh bien celui de Mozart. C'est vrai que Mozart et vous, c'est une vieille histoire parce que vous aviez à peine 3-4 ans. Et déjà au piano, eh bien c'est le premier premier morceau qu'elle vous est attaquée.
Oui, j'ai commencé, c'est vrai, j'ai commencé à 4 ans, mais je n'avais pas trop le choix, mais j'adorais ça. Et mes parents avaient eu l'intelligence de me dire que si j'avais de bonnes notes à l'école, bon, c'était un peu plus tard, j'avais 7-8 ans, j'aurais le droit de travailler mon piano. Ce qui quand même était extraordinaire, parce qu'en général, on pousse les enfants. Et moi, j'attendais ça comme une récompense. Et donc, j'ai commencé très tôt à entendre parler de Mozart par ma grand-mère qui m'élevait, parce que mes parents étaient en tournée, donc je ne les voyais pas beaucoup. Et
mais c'était musicien.
Oui, mon père était contrebassiste et chef d'orchestre, et maman était violoniste.
Oui. Et mon pourquoi frère, vous n'avez pas continué ? Pourquoi vous n'avez pas continué ?
Pour deux raisons. La première, c'est qu'entre, disons, 7 ans et 17 ans, quand j'ai eu mon premier prix au conservatoire, je ne faisais plus que ça. Et je rêvais de jouer le grand répertoire romantique, Rachmaninov et tous ces grands Russes. Et j'ai des toutes petites mains, je n'ai pas d'écart du tout. Et je me suis dit, est-ce que je continue à ne faire que ça 8 heures par jour en période de concours. Je ne serai jamais une grande concertiste. Et finalement, alors j'ai fermé le couvercle du piano un jour. Je me suis réveillée, j'ai fermé le couvercle de mon piano et je me suis mise à pleurer. Et dans la journée même, je l'ai revendu, salle Drouot. Et pendant, je ne sais pas, 5-7 ans peut-être, je n'ai plus retouché un piano.
Là, vous
j'en ai racheté un quand ma fille est née.
Vous avez pleuré parce que vous avez fermé sur vos doigts.
Oui, d'abord.
Alors, parlons de Mozart. Mozart, c'est à la fois un enfant prodige, c'est un génie absolu, probablement avec Bach, le plus célèbre des musiciens dans le monde. Mais il a connu la célébrité de son temps, ou est-ce que...
Oui, pendant une période où il était très heureux, disons à peu près au moment, un petit peu avant, avec l'enlèvement Serail, qui est le premier opéra, qui est une turquerie très joyeuse.
Très joyeuse, très sympathique.
Voilà, merveilleuse.
Baba Selim.
Et puis la fameuse trilogie avec Daponté, cet abbé libertin ô combien, qui avait pour copain Casanova, donc déjà ça résume un peu sa carrière, et qui a fini par monter une épicerie à New York et créer Don Giovanni. Enfin, personnage à lui. Et je raconte, si vous voulez, c'est comme des tas de petites émissions.
Bien sûr.
Où je raconte des personnages extravagants qui font rêver.
Mais c'est pas une biographie.
Non, c'est classique. Il y a plein d'entrées. C'est un dictionnaire, donc vous prenez n'importe quelle lettre et puis vous choisissez. Il y a une chose quand même, vous dites qu'au fond il était assez langue de vipère et très drôle.
Oui, ce qu'on ne sait pas, il avait, quand il parle d'un aristocrate, d'un jeune aristocrate qui est un poste assez important, il dit c'est un veau. J'ai dîné hier soir avec, Rodolphe, je ne sais plus quoi, c'est un veau. Et il n'avait pas sa langue dans sa poche. Quand il parle des cantatrices, il est très, très drôle aussi. Il suffit qu'elles ne chantent pas comme il le souhaite. Et là, il y a une série d'adjectifs fleuris. Alors, il avait une langue extrêmement fleurie.
C'était
l'époque.
Et puis, il n'avait pas que la langue.
Il ne pouvait pas avoir une femme sans avoir envie de la séduire.
Qu'est-ce qui était fleuri par ailleurs, Stéphane?
C'est les maladies.
Ah oui, à l'époque, il y avait des maladies vénériennes terribles.
Mais non, c'est pas à ça que je pensais.
Mais bien sûr que
vous rabaissez.
Mais c'est pas Mozart.
Je vous demande de prendre un peu de hauteur.
Vous aimez RTL?
Vous allez adorer RTL.fr.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24 heures sur 24.
Découvrez des bonus vidéos exclusifs.
Retrouvez et commentez toute l'actualité et invitez-vous dans les coulisses des émissions de RTL avec la vidéo en direct. Dès aujourd'hui, vivez tout RTL encore plus intensément.
Rendez-vous sur RTL.fr.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes avec Evo Djiri. C'est un petit écureuil, on va parler des animaux maintenant avec Marc Giraud, notre spécialiste.
À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud.
Alors oui, Mozart aimait bien les animaux et notamment il a eu un étourneau. Donc Sturnus vulgaris, comme vous l'avez si bien dit. Un petit étourneau qu'il a eu pendant 3 ans, qu'il a acheté le 27 mai 1784 à Vienne. Il l'a noté dans son calepin.
Quel prix ?
Il a noté le prix, effectivement. Il a mis « Das war schön », ce qui veut dire « Oh, que c'est beau ». Et il a noté aussi 2 phrases musicales. Donc une phrase musicale qui correspond au final du concerto pour piano en sol majeur. Et une autre qui ressemble en même temps à ça, une variante, et au cri de l'oiseau. Et on ne sait pas si l'oiseau, en fait, il avait déjà composé...
Donc il a noté la partition de ce que l'oiseau chantait.
Voilà. Alors on pourrait penser
Il a piqué ses droits, en fait.
Voilà, c'est ça. Il a beaucoup été inspiré par le chant des oiseaux, enfin, de temps en temps. Il y a des moments où on peut se le demander.
Il habitait une maison à Vienne qui était près du parc, donc il y avait beaucoup d'oiseaux, il entendait tout ça. Mais vers la fin de sa vie, il demandera qu'on l'éloigne, parce que quand il est en train de mourir, il est agonisant. Et
enfin, la fin de sa vie, il est mort à 35 ans.
Oui, 35 ans.
Il a eu le temps de faire du boulot. Hein. Donc les oiseaux sont très inspirants, ils l'ont inspiré parce qu'ils ont, des chants assez particuliers. Bon, alors c'est beaucoup des grincements, on entend ça en ce moment, hein, des grincements, des sifflements, des claquements, des gazouillis, des grognements, c'est très très varié en fait. Et ils savent aussi faire des imitations. Et ça, c'est un... Bonjour, petit oiseau. Un petit baiser. Et ça, c'est un oiseau.
C'est un sadique.
Ça, c'est un étourneau en cage qui a été dressé et qui finit par répéter. Ménat, parce que c'est des grands, grands imitateurs. Donc moi, j'en ai entendu qui faisaient le loriot, la buse, des grincements de portes, des sifflements, des klaxons. Il y en a même un qui a perturbé, en Irlande, il a obligé un match de foot à s'arrêter parce qu'il était niché en haut. Et il imitait le sifflet de l'arbitre à la perfection, ce qui fait qu'ils ne savaient jamais où ils en étaient. Ils ont été obligés d'arrêter le match. C'est les étourneaux.
Ça, je ne savais pas du tout, alors.
Ah oui, remarquable imitateur. Et en ce moment, on en voit beaucoup parce que c'est l'hiver et c'est un oiseau d'hiver. Parce qu'il migre. Alors, quand on parle de migration, on pense souvent aux hirondelles qui sont chez nous l'été, qui vont l'hiver. Mais nous, on est l'Afrique des oiseaux du nord ou de l'est. Comme ils commencent à se geler les plumes, ils viennent chez nous. Donc, en ce moment, il y a plein d'étourneaux. Et ils sont connus pour, vous savez, ces gros vols collectifs qui font des espèces de nuages noirs comme ça. Oui. Vous voyez ça, c'est les étourneaux. Et quand ils se posent, c'est quelquefois dans les villes. Et là, ça fait du bruit et ça fait de la fiente et ça pose quelques problèmes sur les voitures, notamment évidemment ces gros vols collectifs. Donc c'est dans un dortoir, il peut y avoir 1 million d'oiseaux, ça fait quand même une tonne de fiente, mais ça mange 30 tonnes d'insectes parce que c'est un oiseau très utile, ça mange beaucoup d'insectes ravageurs des cultures et ils sont adorés dans les pays de l'Est et un peu partout. C'est aussi des oiseaux utiles.
La tonne de fiente tombe pas au même endroit,
Elle tombe sur le dortoir quand même. Donc en une journée, ça fait mal.
C'est un peu comme si un A380 vidangeait les toilettes. Vous voyez,
c'est un peu ça. Donc ça pose des petits problèmes. Donc on met des cris d'effarouchement, des cris de rapace. Et là, ils s'en vont. Voilà, il y a des méthodes écologiques.
Pour éloigner les étourneaux.
Donc comme ils sont très utiles, on en a lâché en 1890 60 à New York parce qu'il n'y en avait pas aux États-Unis. Et maintenant, ils sont des millions et des millions parce que ça se reproduit très bien. Et c'est aujourd'hui un des oiseaux les plus répandus au monde.
Et ils sont contents, les Américains, qu'on leur a envoyé.
Oui. Ils ont des dortoirs aussi avec des tonnes de viande, voilà. Non, c'est un oiseau adorable. En ce moment, il a son plumage d'hiver, il a des plumes blanches, des taches blanches comme des flocons de neige sur son plumage. C'est un petit oiseau noir à la queue courte. On le confond quelquefois avec le merle, mais c'est vraiment très très joli. Donc écoutez, peut-être qu'il vous inspirera.
Et Mozart a composé
un poème. Un poème pour les oiseaux.
Quand il est mort, son petit oiseau, la mignon, il a beaucoup pleuré. Il a écrit un très très joli poème. Un petit poème pour son.
Mais j'ai eu peur au début quand il m'a dit, il va nous parler du petit oiseau.
Oui, on a tous pensé.
Allez, on va retrouver dans un instant le vrai faux de l'invité. On va essayer de mieux faire connaissance avec vous, Frogerie.
Vous écoutez RTL.
Le vrai faux de l'invité.
Eh bien, le principe est simple. On va donner avec Patrice un certain nombre d'informations sur la vie d'Ève Ruggieri. Ils doivent savoir, nous dire si c'est vrai ou si c'est faux.
Au secours.
La pièce préférée chez Ève Ruggieri, eh bien, c'est sa salle à manger. Oh, pas tellement pour les repas, mais parce qu'elle n'aime pas spécialement faire la cuisine, mais parce qu'elle aime y travailler, la table est plus grande.
Ça doit être vrai. C'est logique, la table est grande, c'est vrai.
C'est un peu compromettant comme information, je dois l'avouer, mais je pense que c'est vrai tout de même.
Vous pouvez garder le silence.
On n'est pas l'émission où on révèle les choses les plus scabreuses.
Non, c'est pas la première question.
Ça va venir.
Il n'y a qu'une heure.
Alors, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a qu'une heure.
C'est vrai.
Il n'y a qu'une heure. Oui, c'est vrai.
Alors, à propos justement d'appartement et de maison, elle n'est pas contre les travaux, puisque quand elle a aménagé dans son appartement à Paris, il n'y avait ni bain ni chauffage, et dans sa maison, je crois que c'est dans le Gers, il n'y avait ni eau ni électricité, donc voilà, il faut faire les travaux.
Vous êtes très renseigné sur la maison d'Ève Ruggieri, vous y avez passé quelques jours, non?
Mais c'est vrai pour tout le Gers.
C'est vrai pour tout le Gers, il y a toujours
ça, c'est très méchant.
Mais il y a du vin.
C'est une vacherie.
Ah oui, ça c'est une vacherie, c'est un département
terminé
de rêve.
La tournée dans le Gers, ça s'est terminé.
Terminé la tournée dans le Gers.
Travaux ou pas?
Ouais, travaux sans doute, oui, ça doit être vrai.
Je suis censée répondre.
Oui.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai.
Vous donnez des concerts de Mozart chez vous?
Oui, enfin Mozart non, enfin si je... non. Pas non parce Mozart. Que ben non parce que les opéras, il y a plusieurs personnages,
des extraits
des extraits, oui.
Ève Ruggieri a rencontré Rachid Kimoun, le sculpteur qui partage sa vie lors d'un concert qu'elle présentait à Marseille. il a voulu la saluer et il s'est assommé contre une poutre et il est tombé raide, évanoui.
Ça ne s'invente pas, ça.
Quelle belle histoire.
Oui, c'est vrai, ça ne s'invente pas. Vous avez raison, Marc.
Alors, oui, c'est vrai. C'était dans une chapelle. C'était un concert donné pour le départ d'une vieille institutrice d'un collège religieux. Et on est venu nous dire, dépêchez-vous, ça va commencer. Et ce jeune homme que je ne connaissais pas vraiment, qui m'avait dit, je fais une exposition, est-ce que je peux rester à votre concert? Je lui ai dit, si vous voulez, vous savez, c'est de la musique classique. Et il était assis, comme toujours, dans la sacristie, parce que quand on donne, c'est toujours, on se retrouve toujours dans les sacristies. Et il s'est levé d'un bond, et comme il fait 1m90 ou 12, il y avait une poutre, et il est tombé, mais raide. Avec un filet de sang qui coulait.
Ah, la vache.
Moi, j'étais complètement sidérée. Ouais. Alors, je me de poutre. Je me suis précipitée vers lui. Non, j'ai commencé à essuyer un peu le sang. Et en faisant ça, je me suis dit, mais il est pas mal. Et on ne s'est plus quitté. Voilà.
Après, vous l'avez dit ça. T'en as fait beaucoup quand même pour me rencontrer. Vous l'avez dit ça après.
Alors, il y a un drame un jour. Véronique est présenté un concert. Je crois que c'était au théâtre du Palais Royal. Et là, elle a perdu sa jupe.
Waouh! Sur scène, comme ça.
Sur scène.
Oui, je crois qu'on a des images.
On a des images.
On va mettre en ligne sur le site d'RTL.
Ouais, ou
non,
c'est
faux.
Probable.
Faux. Oh, bah, ça doit être...
Moi, je pense que c'est juste un cauchemar. Ouais.
Un fantasme de Patrice Carmousse, peut-être?
Aussi.
Hélas, c'est une histoire dramatiquement vraie.
Ah bon?
Racontez.
Voilà, on m'avait demandé de remplacer Alain Decaux, qui faisait un spectacle sur l'histoire. Et j'étais revenue. Moi, j'étais à New York quand on m'a appelée. Donc, je suis revenue à toute vitesse pour le remplacer. Et c'était les spectacles où il était seul en scène sur la fameuse chaise de la télévision et raconter tout ça. Donc tout ça s'est très bien passé. Et il y avait un entracte. Et lui, on avait demandé, parce qu'il venait d'avoir un problème cardiaque, il était hospitalisé. Et donc à l'entracte, beaucoup de gens sont venus me demander des nouvelles. Et tout en parlant, moi j'ai traché ma jupe un peu hâtivement. Et c'était une jupe longue qui était en deux parties. Il y avait une espèce de fourreau noir et par-dessus une jupe plissée en soie rouge. Et le rideau tombe. Des gens applaudissent très très chaleureusement, donc je me lève d'un bond pour saluer. Et là, ma jupe est tombée, mais d'un coup,
ils ont applaudi
comme
encore
elle était
plus fort.
Double et très lourde, elle n'a pas glissé, elle est tombée comme ça. Et je me suis retrouvée en collant noir avec une petite queue rose.
Et les applaudissements ont redoublé d'intensité.
Alors, il y a eu cette chose incroyable, c'est-à-dire que le public, les applaudissements sont arrêtés net, il y a eu un grand silence, et dans ce grand silence qui a duré une fraction de seconde, on a entendu un hurlement de rire. C'était le pompier qui était dans qui était plié en 18. Et bon, jamais, je crois, de ma vie, je n'ai remonté une jupe aussi vite. Mais ce qui s'est passé.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Nous sommes toujours avec Eve Ruggieri, notre invité pour son dictionnaire amoureux, et Sébastien Marx pour les trépidantes aventures d'un Américain en France. C'est publié chez First. On vous connaît bien ici parce que vous avez travaillé dans cette émission.
Bah oui.
Vous nous apportez votre regard d'Américain futé sur les pauvres Français que nous sommes. Mais grâce à ce livre, on en apprend un peu plus sur vous. D'abord, comment vous qui étudiez le cinéma à Boston, vous vous êtes retrouvé en France un beau jour?
Bon, j'ai suivi une Française. Elles sont très convaincantes.
Voilà ce que c'est.
Et donc, du coup, je me suis retrouvé non seulement en France, mais à Toulouse. Toulouse.
C'est pas non plus indigne.
Non, c'est la France, mais il faut comprendre que Toulouse, en anglais, veut dire perdre.
Oui, perdre. Ouais.
Donc, suivre une fille à un endroit qui s'appelle perdre, ça commence à... ça sent mauvais. Hein. Donc, donc, du coup, non, je suis... Donc, c'est un peu dur de... En fait, je suis New-Yorkais à la base, donc j'ai quitté New York pour aller à Toulouse. Donc, ce décalage déjà était intéressant. Oui. Et je parlais pas le français.
Pourtant, vous devenez prof d'anglais.
Oui, je suis devenu... Je parlais bien anglais, par contre. Je me suis débrouillé pas mal.
Vous n'avez aucun mérite, hein, je dis.
Et donc, non, j'ai donné des cours d'anglais, mais c'est qui était
drôle. Vous
n'étiez
pas préparé à ça quand même.
Ouais, en fait, le problème, c'est que l'anglais était quand même un sujet. Pour moi, je n'étais pas très fort en anglais. Moi, je parlais bien l'anglais, mais je veux dire, côté pédagogique, je n'étais pas très fort. Mais vu que j'étais américain, j'ai donné des cours d'anglais tout de suite quand je suis arrivé en France.
Mais la pédagogie, ça s'apprend aussi, c'est pas.
Oui,
c'est pas
ça s'apprend. Donc, j'ai commencé à bien donner des cours d'anglais après un petit moment. Après un peu d'expérience, mais au début, non, c'était... Bon, après, je trouvais le boulot que je pouvais faire.
Oui, on parle pas la langue, vous avez fait toutes sortes de boulots, ce que vous racontez, mais ce qui est amusant, c'est qu'à peine vous arrivez à Paris, à peine vous êtes à Paris, 2 heures après, ça y est, en vrai français, vous râlez.
Ah oui, mais ça.
En vrai parisien, de vrai parisien. Parce que moi qui voyage en France, je veux dire que les Français ne sont pas comme ça.
C'est plutôt les parisiens, on est d'accord.
Ah non, mais on a de bonnes raisons de râler en même temps parfois.
Oui, on a très bonnes raisons. Je ne sais pas si les Français râlent parce qu'ils sont Français ou parce qu'il y a trop de raisons de râler en France. On ne sait pas.
Oui. Mais est-ce qu'avec le temps, vous êtes devenu un French lover?
Ah oui, complètement. Déjà, j'adore la façon de penser française. Mm. Est-ce que ça dépend de ce qu'on veut dire par un French lover? Est-ce que moi, en tant que je suis un homme macho comme les Français?
Oui,
oui, un peu. Enfin, ou est-ce que je suis amoureux de la France?
Vous êtes amoureux de la France?
Les deux.
Et surtout, vous dites que là où on est très fort, les Français, c'est que les femmes françaises ont réussi à convaincre.
Non, les hommes français.
Les hommes français ont réussi à convaincre les femmes. On était comme le bon vin qu'on aimait, c'est-à-dire qu'on se bonifiait en vieillissant.
Oui, mais la réalité, c'est juste que les hommes plus âgés peuvent acheter, s'offrir de meilleurs vins. Et c'est pas pareil.
Il y a des femmes plus jeunes. Oui.
Est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'administration française?
Beaucoup, beaucoup. Même j'ai fait même un sketch sur Internet, là, sur intermittent de spectacle. Je suis intermittent de spectacle, j'ai un spectacle. Et donc, du coup, ce processus, on ne comprend pas. Je dis on parce que personne ne sait comment ça marche. Même quand j'appelle le Pôle emploi pour savoir comment ça marche, il dit je ne sais pas. Donc je ne sais pas comment. Et donc on a.
Déjà, ils vous répondent, estimez-vous heureux.
Oui,
bon, après 3 heures, on est bien d'accord. Mais en même temps, ce qui est super, c'est que ce statut existe quand même. Parce qu'aux États-Unis, ça n'existe pas. Oui, si on veut être acteur, comédien, il faut travailler à faire un boulot alimentaire.
Et
à côté, souvent. Et donc, ouais, sauf si on est vraiment Ryan Gosling, tu vois aussi.
Mm-hmm.
Ryan Gosling, pardon.
Ryan Gosling. Oui, parler d'autres.
On peut parler comme tout le monde.
Voilà,
on a lancé Aretha Franklin tout à l'heure.
Ok. Et finalement, est-ce que vous regrettez d'avoir choisi notre pays?
Non.
Non, non. À aucun moment, vous dites ok, je rentre chez moi.
Si, tous les jours. Mais sinon, de Milan final, c'est non.
C'est
mais non. En même temps,
chez vous maintenant,
c'est chez moi maintenant. J'ai même la nationalité française maintenant.
Ah oui,
oui, je suis français.
On la donne vraiment à n'importe qui.
N'importe qui. Hein.
Paris est un peu un arrondissement de New York.
Ouais.
Et alors, cela dit, vous êtes tellement drôle que c'est bien, ça renforce la scène humoristique. Sébastien Marx est sur scène au théâtre de l'Apollo, n'est-ce pas?
C'est ça.
C'est les jeudis, vendredis et samedi. À 20h.
C'est ça.
C'est où la scène de l'Apollo?
C'est pas loin de la République.
À côté de la République.
À côté de la République, oui.
Parfait.
Il connaît mieux Paris que nous, hein.
Oui. Ben oui, nous, on est coincés entre le 8e et Neuilly maintenant. Les trépidantes aventures d'un Américain en France, c'est chez First. Merci beaucoup, Sébastien Marx.
Merci.
On va retrouver dans un instant Eve Ruggieri et Régis Maillot, l'interro.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Eve Ruggieri pour son dictionnaire amoureux de Mozart. Cela dit, c'est pas hasard. Vous avez habité avenue Mozart,
oui,
à Paris.
Ah. Oui.
Ça s'invente pas, ça.
J'ai attendu, je pense, 6 ans pour réussir
Elle voulait avoir un appartement à Mozart.
C'est mon idée fixe.
Moi, c'était porte-maillot.
Oui, on aurait pu se croiser.
Et bien voilà, il est...
que vous, c'est votre nom, mais moi, voilà. Mozart est là.
C'est chez lui.
C'est chez lui. Et bien voici Régis Maillot.
L'interro Maillot.
Alors, on commence par parler évidemment musique. Le Mozart de la pop française, Michel Polnareff, va faire son grand retour. Première question, il sera en 2019 à l'affiche. Mais de quoi, Patrice Carmouze? 4 possibilités. La nouvelle publicité de 7LM. La quinzaine du Bigoudi. La comédie musicale R ou le fantôme de l'opéra.
Et c'est le fantôme de l'opéra.
Eh oui,
une information. J'ai entendu ça ce matin sur RTL.
Il fait le fantôme.
Il fait le fantôme.
Le journal,
oui,
Kelvin.
La fameuse comédie musicale qui n'avait pas pu être montée à Mogador il y a quelques années. Bonne réponse de Patrice Carmouze. Vous passez en seconde heure. Deuxième question.
Ils ont bien assuré quand même. Hein.
J'espère.
Il risque de faire le fantôme.
Ah ouais, ça va être le passe-muraille. Oui. Dans la famille Le Pen, je voudrais la petite fille Marion Maréchal. Nous revoilà. Ouais. Et oui, après avoir subitement quitté la politique, ce qui avait fait à l'époque pleurer l'œil sec de son pépé, eh bien, la jeune Virago s'est retrouvée une nouvelle passion. Mais quelle est cette étonnante reconversion? 4 possibilités. Stéphane Bern, c'est à vous de répondre. Elle va ouvrir un restaurant de choucroute à Barbès.
Ce serait pas très rentable.
Elle envisage fermer une frontière. Non. Elle va reprendre une biscuiterie à Nantes spécialisée dans les petits beurres. Ou elle envisage ouvrir une école.
Je crois que c'est un projet d'école, évidemment.
Exactement, c'est un projet pédagogique. Participer à la création d'une formation pour les diplômés pour parfaire leur culture générale. On va bien voir. Question suivante, à vous de répondre, Brugieri. On est toujours en politique. La République En Marche, vous connaissez ?
Absolument.
Qui est à la politique, ce que le club Dorothée fut à la jeunesse. Oh. Tout le monde voulait sa carte et une fois abonné, tu te rends compte, eh ben, tu t'es bien fait arnaquer. La preuve, rien ne va plus. Une centaine de marcheurs ont annoncé qu'ils quittaient le mouvement hier. Un frondeur a même dénoncé qu'Emmanuel Macron a créé, mais a créé quoi ? Plusieurs possibilités. A créé une start-up, une secte, une coquille vide ou un kibboutz.
Alors bon, coquille vide et une start-up, j'enlève. Un start-up, peut-être. Ouais, j'hésite entre start-up et coquille vide.
Mais coquille vide, c'est pas mal.
Et secte, c'est ça, oui.
Non, non, secte, certainement non. Pas. Une start-up, allez.
C'était une secte.
Oh, c'est pas vrai.
Eh ouais.
Mais c'est une fausse information.
Eh ben c'est un frondeur qui a dit. J'ai l'impression qu'on est dans une
carrière. C'est quelqu'un qui a démissionné qui dit ça.
Ah oui, mais c'est quelqu'un qui a dit ça. Mais
oui. Eh oui, les ordres viennent du haut, comme dans une secte. On doit les appliquer à la lettre. Ça fait peur, hein. Ave Macron. Ave Macron. Bah, je sais pas. Tiens, qui a dit ? Qui a dit ? On dénonce les porcs sans dénoncer la porcherie. C'est à vous de répondre, Marc Giraud. Plusieurs possibilités.
C'est pour vous, cette question.
première réponse, bah, c'est vous qui l'avez dit, ouais. Marc Giraud. Deuxième réponse, Madeleine de Chessé, la présidente de Sens Commun. Véronique Jeunesse de la pub Madrange. Ou Gilbert Rozon, juste pour rire, mais, évidemment.
Véronique... Non, c'est pas ça.
Mauvaise réponse. Bon, c'est Madeleine de Chessé, la...
Ce que je sais, c'est que
j'ai entendu ce matin sur
elle a dit, oui, que...
Vous avez dit qu'elle faisait de la pub pour le jambon, donc...
Exactement, le hashtag balance un porc, c'est quelque chose, mais c'est surtout voir les mots à la racine, les ravages de la pornographie et des pubs sexistes.
C'est mon copain Émeric Caron qui n'était pas d'accord qu'on mette les porcs dans cette histoire.
Oui, on en a parlé. On avait fait, nous, un hashtag Marcassin, ici. Tiens, à vous de répondre, Sébastien Marx. Une question... Ah non, pas une question patrimoine, je vais la laisser pour Stéphane Bern. Au chapitre progrès social, tiens, les Australiens ont participé à une consultation électorale par voie postale. Et ils ont été 62% à se prononcer pour. Mais pourquoi ? Quatre possibilités. La dépénalisation de l'inceste chez les aborigènes. L'expulsion définitive du pays de Meg Gibson. L'euthanasie chez les requins non véganes. Ou la légalisation du mariage gay.
À la légalisation du mariage gay, je pense, mais j'aurais bien aimé que ça soit expulsé Mel Gibson quand même.
Bonne réponse, bonne réponse. Ça va avec. Allez, une petite dernière pour Éric Dussard. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage. Objectif principal de promouvoir la consommation des produits fabriqués avec des matériaux recyclables. Il paraît que c'est la journée préférée de Thomas Sisley, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, qui depuis 20 ans recycle les meilleurs vins des humoristes new-yorkais. Notre invité, on sait quelque chose. Tiens, l'Union européenne s'est fixée comme objectif de recycler la moitié des déchets ménagers en 2020. La France est à la bourre avec 39%. Quelle est la région française que vous connaissiez bien qui recycle le plus ?
La Bretagne.
Exactement. Bonne réponse, Éric Dussard.
Comme d'habitude.
Alors, dans le cochon, tout est bon, on recycle en Bretagne.
C'est plutôt le bon élève,
la Bretagne, le bon élève.
Alors
bien
qu'on
sûr.
Accuse toujours les Bretons. Non, vive la Bretagne. Vive les Bretons. Merci, Régis Maillot.
C'est mon
On va retrouver justement Éric Dussard dans un instant. Il a déjà des idées de cadeaux de Noël pour son zapping.
On va rester dans le cochon, justement.
Très bien. Allez, à tout de suite pour la suite de la bonne heure avec Eve Ruggieri, notre invité. Dictionnaire amoureux de Mozart, c'est publié chez Plon. Beau cadeau de Noël, justement. À tout de suite. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec un coup de chapeau.
Et oui, un coup de chapeau à tous ceux qui travaillent dans les centres d'appel d'urgence, que ce soit la police, le SAMU ou encore les pompiers, parce qu'il en faut du cran pour supporter tout ce qu'ils entendent, surtout quand les gens appellent pour raconter absolument n'importe quoi, comme l'a montré ce reportage de C8 avec par exemple Madame. Alors elle, son urgence vitale, c'était la présence de fouines dans sa maison.
Bonjour. Bonjour monsieur, je suis infestée de fouines. Ça fait un mois.
Là, vous m'en posez une colle, parce que c'est pas pour les urgences, ce bazar-là.
50 grammes, vous m'avez dit, c'est ça ?
Ouais, 50 grammes de chute.
Du chute, c'est quoi ? Du cannabis, en fait, c'est ça ?
Non, du chute.
C'est différent.
C'est comme du cannabis, mais c'est du chute, quoi.
Ok.
Dans la branche, quoi.
Pourquoi vous la dénoncez, en fait ?
parce que c'est mon ex et tout ça, et elle m'a fait des problèmes, et je la dénonce.
C'est bien entendu, le type appelle la police pour balancer son ex, leur expliquer qu'elle consomme du shit.
Ils ont tous accent belge.
Je crois que ça, c'est dans un centre d'appel en Belgique.
C'est tourné en Belgique.
C'est en Belgique.
Et les fouines, c'est pas en troupeau. Hein.
Non, mais c'est peut-être la même qui avait fumé. Foin. Peut-être que le même avait fumé. Madame avait fumé, elle aussi. Hein.
Et pardon, mais c'est quoi la différence entre le cannabis et le shit?
Bah, je ne sais pas. Bah, je ne suis pas très renseigné non plus.
Le shit, c'est du cannabis.
C'est pareil.
Oui, c'est on a deux spécialistes.
Ouais, bah, c'est de la botanique. Hein,
ce de la table, ouais. Ah, j'ai de
la c'est bien d'avoir ce débat sur le shit. Bon, en tout cas, on voit que le gars n'est pas du tout rancunier hein, pour balancer son ex. Les histoires d'ex, il faut dire aussi que ça donne toujours lieu à de bons moments de télé. Voici encore une belle histoire. Cette fois-ci, c'était dans Les Amours sur France 2.
Quand votre compagnon vous a dit ça ou quand il vous a fait ça, vous avez été piqué au vif.
Alors moi, c'était au tout début de notre rencontre. Il m'a offert un collier, sauf que ce collier-là, c'était le collier de son ex. Voilà. Et je l'ai porté quand même pendant un an, ouais. Avant que moi, j'ai trouvé une photo sur Internet de son ex. Et j'ai repéré qu'elle avait le même collier que moi.
Eh bien, Evre dirait raison, c'est la journée du recyclage, oui, donc ce monsieur a bien raison. Je ne vois pas où est le problème. C'est cette drame des réseaux sociaux, c'est que maintenant on trouve évidemment tout le passé hein, de son conjoint. Et oui, on peut absolument tout voir. Mais sont les spécialistes en même temps du recyclage dans Les Amours, parce que vous vous souvenez qu'une fois, vous avez aussi offert, un mari avait offert une compilation à sa nouvelle femme d'un groupe qu'elle n'aimait pas du tout. Il avait dit, bah oui, mais c'était pour mon ex, mais vu qu'on s'est quitté, c'est pour toi maintenant. Donc vous voyez, c'est le recyclage tous les jours chez eux. Bon, pour revenir à cette histoire de collier, j'espère en tout cas pour elle que ce n'est pas le même modèle de collier que celui que nous a présenté cet artiste dans le magazine Trax sur Arte.
On va faire l'équivalent d'un collier pour chien mais pour humain, qui va permettre de stresser quand on est trop serein. Quand on aura un rythme cardiaque trop stable, on a plusieurs options. On peut par exemple avoir une décharge électrique ou sinon un cri de sirène stridente.
Bah c'est bien, c'est une belle idée de cadeau de Noël pour la belle-mère. Tiens, va faire, ça fait plaisir, vas-y. C'est le taser collier en fait.
C'est horrible ce que vous racontez.
Mais vous connaissez ce magazine Trax sur Arte ou pas?
Non.
Alors c'est très bien, le concept c'est de montrer plein de déglingos comme eux. On a aussi par exemple dans le dernier numéro le concepteur d'un sextoy, Thomas Pesquet. Vous savez le spationaute. Eh bien, on peut s'envoyer en l'air grâce à lui.
En juin dernier, alors que l'astronaute français Thomas Pesquet est en orbite, Aurélien profite d'une exposition consacrée au numérique pour présenter son sextoy qui vibre dès que le spationaute passe au-dessus de l'hexagone.
C'était l'idée que n'importe quelle femme dans le monde pouvait faire l'amour avec Thomas Pesquet. Donc c'est un langage informatique qui va récupérer les coordonnées de l'ISS. Et donc juste, j'envoie l'ordre au sextoy de vibrer. Thomas Pesquet est au courant, il n'en parle pas, mais il a bien aimé la performance.
Ça a l'air d'être du gros sextoy quand même, hein. Ça fait le bruit d'un marteau piqueur, hein. C'est étrange. On imagine bien qu'il n'en a pas parlé à sa femme, tu penses bien ?
Thomas Pesquet est au courant, le truc.
Ouais, il n'a pas fait ça dans le dos. Ouais.
Quand on vous disait que Thomas Pesquet,
il n'est pas au courant.
Il a fait vibrer la France entière avec cette aventure.
C'est effrayant.
Oui, encore plus flippant que le vibro de Thomas Pesquet, voici l'homme qui vit avec une poupée en latex. Témoignage recueilli par C8.
Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous avez des sentiments pour Irina ?
Ah bah grave, oui. Quand je l'ai déballée du carton et que j'ai commencé à l'habiller, la coiffer, la maquiller, elle a commencé à prendre vie. Et on va dire qu'au bout d'une dizaine de jours peut-être, je me suis rendu compte que je tombais vraiment amoureux de ma poupée. Et je lui ai dit je t'aime.
Et est-ce que vous pourriez être infidèle à Irina ?
Je ne pense pas.
Ouais, alors ça, c'est ce qu'il dit, mais je crois qu'une fois, il s'est tapé un nain de jardin quand même. Il y a une petite infidélité. Comme quoi, vous voyez, les temps changent.
Il s'est tapé Kiki. Le stage Kiki.
Mais c'est bien, les temps changent. Les garçons jouent à la poupée aussi maintenant. Il faut évoluer avec son temps.
C'est romantique, tout
oui,
ça.
C'était dans l'émission de Thierry Ardisson sur C8, dans laquelle on a également vu une autre séquence encore plus angoissante. Stéphane Blakowski est allé interroger des gens dans la rue pour leur demander leur avis sur la présence à Bobigny d'un boulevard portant le nom de Lénine.
Parce que c'est normal qu'à Bobigny, il y ait un boulevard Lénine.
Lénine, c'est quoi ? C'est quel nom, ça ? Je sais pas, moi, je connais pas, ça.
Vous savez qui c'est, Lénine ?
Non, moi, je connais pas. Bien sûr, je sais c'est qui, Lénine. C'était un dictateur juste de je sais plus où.
Bon, non, c'était un chanteur, c'était John Lénine, vous en souvenez. Hein. Pas confondre avec Sylvester Stallone, lui, il fait des films. Ça n'a absolument rien à voir.
Que je pense que je suis allé visiter le musée de Montreuil.
Ah, bah, ils vous l'ont pas présenté, ceci.
Où il y avait toute la révolution russe
évidemment,
à travers les portraits
de Lénine. C'est l'histoire du monde, quand même, on peut pas
voilà,
zapper.
C'est
comme
incroyable de pas savoir.
Ah, bah oui, vous les avez pas rencontrés, ceux-là ? Non, étonnamment. Pourtant, ils devraient aller visiter ce musée. s'amuser. Tu apprendrais plein de choses.
Exactement. On termine avec notre sujet du jour.
Oui, le dictionnaire amoureux de Mozart que vous avez écrit à Ruggieri, ça va bien avec son personnage. D'ailleurs, cette appellation de dictionnaire amoureux, car lui-même était un amoureux de l'amour. C'est ce qu'on avait appris dans ce documentaire.
Mozart aimait particulièrement les plaisirs de la chair. Sa vie intime commence avec sa petite cousine, Maria Anna Tecla, à qui il écrira même des lettres un peu cochonnes. « Venez sans faute, sinon c'est la merde. Je pourrais alors vous fouetter le cul, vous donner des lavements par devant et par derrière. »
C'est un petit jeu, ces petites phrases. « Je te prendrai par devant, par derrière. Je suis cochon, je suis le baron de la queue de cochon, etc. »
Comme quoi, il avait vraiment la flûte enchantée. Hein, ça, on ne le dira jamais assez. Vous savez d'où ça vient maintenant.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Eve Ruggieri pour l'interview « Seul à seul ». Alors, je vous propose une interview, des questions à la Jacques Chancel. Ah, normalement, il y a des musiques.
Delrue.
Eve Ruggieri, bonjour.
Cher Jacques, bonjour.
Vous avez déjà regardé derrière vous ?
Presque tous les matins.
Oui.
Oui.
Est-ce que, Eve Ruggieri, vous avez déjà posé des conditions à la vie ?
Écoutez, la vie. Qu'est-ce que la vie ?
Elle nous fait des réponses à Jacques Chancel aussi.
Des réponses à Jacques Chancel.
J'adorais Jacques parce qu'il avait le donne comme truc. Il avait un truc imparable. C'est comme tout le monde, il lui arrivait d'avoir une réponse négative. Oui. Il disait voilà, je pense ça, et l'invité disait mais non, pas du tout. Il lui disait c'est ce que je voulais vous faire dire. Ça, c'est imparable. Quand on se plante, c'est un truc imparable.
Eh, Ruggieri, est-ce que vulgariser, c'est apporter à d'autres ce qu'on aime ?
Vulgariser, c'est un vilain mot.
Oui. Populariser,
auquel c'est mieux. C'est déjà beaucoup mieux, populariser. Oui. Auquel on n'a pas vraiment trouvé de remplaçant. Il faudrait qu'on s'y mette tous les deux.
Mais c'était une vraie phrase de Jacques Chancel. Oui. Et Eve, pourquoi avez-vous croqué la pomme ?
Écoutez, je mourais de faim. Il y avait un type pas mal qui m'en a proposé une. J'ai sauté dessus. La pomme.
Dernière question à la Jacques Chancel. Eve Ruggieri, et Dieu dans tout cela ?
Eh bien, écoutez, au XVIIIe siècle, à l'époque de Mozart, on avait l'intelligence d'être à la fois franc-maçon et catholique.
C'est vrai.
Et ça fonctionnait très bien.
Très bien, merci. Eh bien, on va retrouver dans un instant un autre admirateur de Jacques Chancel, c'est Patrice Carmouze, pour son quiz musical. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors, nous jouons pour faire gagner un multicuiseur Cook at Home de Russell Hobbs. Mais le perdant du père partout,
c'est traduit.
Aretha Franklin avec l'album.
Pour le perdant.
Ah oui, enfin, le perdant, c'est enfin, celui qui n'est pas en première position.
Alors, Eve joue pour Sébastien.
Tout deuxième.
Oui. Et Stéphane, vous jouez pour Catherine.
Catherine.
Et alors, ce sont des chansons sur de la musique classique. On va commencer par des chanteurs qui ont chanté sur des musiques de Mozart. Il faut juste deviner qui chante. Et on commence par vous, Eve.
Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux frais minois, pour un
menu.
Un grand écrivain.
Trois petits pas, grâce aux envolées, vieux airs du passé,
l'âme
Saint-Fragile, aux annonces d'autrefois, un gosse à perruque blanche a fait danser tous ces gens-là.
Alors la même musique a influencé.
Tu n'existais pas encore.
C'était mignon.
Cha-cha-cha-cha-cha.
Il chantait juste,
Brune. Ah oui, oui. C'est un trompettiste émérite.
Alors un autre chanteur s'est inspiré de la même musique, mais c'est pour Stéphane maintenant.
Il n'y a rien à faire. Trop tard, je n'aurai jamais le temps de déchiffrer Mozart. Et pourtant, c'est si charmant, ces petites notes.
Arnaud,
Nino Ferrer.
Ouais. Nino Ferrer, bravo.
Un partout.
Alors,
Arnaud Ferrer, c'est mal prononcé ça.
Oui, non, ça passe.
Le jury est compréhensif.
Alors là, on va continuer avec vous, Eve. C'est une autre musique de Mozart.
Enfant, j'ai vécu longtemps, un autre. Mais quand bien au chaud dans le foyer de mes parents, j'avais droit à ma perceuse chaque soir en m'endormant. Mais je devins grand, et ce fut le temps de la maternelle et des premiers
enfants. Même Patrice Carmouze ne sait pas qui c'est.
Dans le dos, j'entre dans
non, parce que c'est les blancs connus, donc on va le passer.
C'est qui ?
On faisait un test, on voyait ça marcher ou pas. Bon, ça n'a pas marché.
Mais personne ne sait.
Non, alors, non, on va passer à celui-là plutôt, avec vous.
C'est Callo, non ?
Non, c'est de la comédie musicale, ça.
Ah, oui. Comédie musicale. Comment s'appelait la comédie musicale ?
Mozart.
Oui.
Ouais, Mozart, l'opéra rock.
Ouais. Ah oui.
Voilà.
Non, avant. Mais oui, bien sûr.
Je peux vous dire qui c'était avant, mais c'était comme sa voix avait beaucoup changé. C'était Michel Delpech.
Ah oui.
Je trouve qu'il est, il n'est pas reconnaissable.
Il ressemblait à San Severino.
Alors, on va quitter Mozart. On va passer à quelqu'un d'autre. Alors, c'est inspiré du canon de Pachelbel. Mais qui chantait ça?
Ah, c'est Demis Roussos.
Oui, absolument.
Allez, deux partout.
Alors, ça a inspiré beaucoup de chanteurs aussi, hein, le canon de Pachelbel.
Oui.
J'adore le jury.
On est flexible. Oui.
Eve, d'accord, qui hein. chantait toujours la musique du même canon de Pachelbel, mais chantée par quelqu'un d'autre.
Ah bah c'est...
Il y a eu du problème avec les impôts à un moment.
Tout ça. Barrière.
Aznavour.
Non.
Barrière.
Barrière.
Oui, Alain Barrière.
Des casinos.
Des casinos. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes avec les impôts.
Les droits d'auteur.
Alors Stéphane, toujours la même musique.
Prendront.
Ah là là.
Le temps.
Magnifique.
De vie.
Il prend la main généralement.
C'était Georges Moustaki.
Georges Moustaki.
Ah, je crois que c'était Yves Duteil.
Ah non.
J'adore sa voix, elle a une belle voix.
Alors, on va faire le départage. On va écouter un livre de Schubert. Et vous me dites à quelle musique ça vous fait penser?
Ah oui, je l'ai moi.
Ah oui.
Le début surtout.
Et les moulins.
Les moulins de mon cœur. Ben oui,
de Michel Legrand.
Une pierre que l'on jette ouais. dans l'eau vive d'un ruisseau.
Ça, j'aurais dû le savoir parce que c'est Nathalie Dessé.
Oui, c'est vrai, Nathalie Dessé. Oui. Ben bravo.
C'est pour Stéphane.
C'est Stéphane donc, qui a
fait gagner. Catherine. Voilà, c'est Catherine qui gagne.
Mais Sébastien n'a pas tout perdu.
Il n'a pas tout perdu. Il part avec le CD d'Aretha Franklin et le Royal Orchestra. Merci beaucoup, Eve Ruggieri. Je renvoie beaucoup. La lecture à très beau cadeau de Noël. Ouais. C'est le dictionnaire amoureux de Mozart. 830 pages, 2,5 kg. Bah, il est superbe. Bravo. Très beau travail.
Merci beaucoup, Stéphane.
Demain, nous serons avec David Ginola pour la France qui a un incroyable talent. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.